Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Pour cette saison 2 de Black is Spicy, je vous ai prévu des sujets épicés avec des invités tout aussi épicés. Alors, nous allons aborder plusieurs sujets, dont le Cameroun déjà, les relations hommes-femmes, la grossophobie, la religion. On va toucher un peu de tout. Je vous préviens déjà, ça va aller dans tous les sens. Mais vous inquiétez pas, ça va être tout aussi intéressant. J'espère que vous êtes prêts. Pour ce premier épisode, je suis avec mon papa. On va un peu présenter le Cameroun, il va un peu nous parler de sa vision, de comment il a vécu la guerre de l'indépendance. Et je tenais vraiment à faire cet épisode parce qu'il y a un dicton qui dit « On ne peut pas savoir où l'on va tant qu'on ne sait pas d'où l'on vient ». Donc cette petite vision du Cameroun hier et celle qu'on a d'aujourd'hui, peut-être nous en donnera une du Cameroun de demain. Alors je vous laisse avec mon papa. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Takoke Alphonse Marie, je suis né le 15 juin 1956 au Cameroun, dans une ville qui s'appelle Tchan, qui est à l'ouest du Cameroun. Et notre pays a connu trois types d'influences. Il y a une influence portugaise qui était ce qu'on peut appeler des explorateurs qui ont parcouru le long de la côte camerounaise et sont entrés par un fleuve, par l'estuaire du Vouri, qui est un fleuve très intéressant, très important, situé à 24 km de la mer. Ça dit l'estuaire du Vouri, c'est l'endroit où le Vouri tombe dans la mer. Donc c'est à 24 kilomètres de Douala, qui est la ville, où se trouve un port fluvial. Alors, c'est sur cet estuaire qu'ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de crevettes. Et ils ont donc baptisé le cours d'eau, le fleuve Vouri, rivière des crevettes, Rio dos Camarões. Et c'est de là que venu le nom Cameroun. Mais ils n'ont pas mis beaucoup de temps, parce qu'ils étaient toujours en train d'explorer, mais les vrais colonisateurs sont arrivés vers les années 1900, et c'était des Allemands, à qui ils ont donné le nom Cameroun, avec K, la lettre K, K-A-M-E-R-U-M. C'était le vrai nom du Cameroun. En fait, c'était un vaste territoire qui s'étendait de l'océan Atlantique, de la côte, jusqu'au lac Tchad. C'est le même territoire qu'il y a aujourd'hui, sauf que il y a eu des portions du territoire qui ont été concédées à d'autres pays, notamment le Nigeria, la Centrafrique, le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. Dans le
Ah, pas le chat.
Cameroun, pas de Tchad. Le Cameroun, en fait, avait une superficie qui était proche de 900 000 km², qui aujourd'hui n'est réduit qu'à la portion congrue de 475 000 km². Donc, une fois que les Allemands se sont installés, ils se sont investis beaucoup au Cameroun, notamment en construisant des bâtisses. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils étaient très durs. Lorsqu'on n'obéissait pas à leurs principes, alors ils étaient obligés d'assassiner les leaders.
Le leader camerounais.
Les leaders camerounais, notamment Douala Mangabel, qui est le premier nationaliste camerounais, qui a été pendu à Douala, juste parce que il n'était pas un illettré, il était quand même un médecin venu d'Allemagne, mais très nationaliste, ce qui n'avait pas apprécié le fait que le colon soit très dominant et insiste sur le fait que les Noirs doivent toujours payer un tribut à chaque fois par un travail d'esclavage. Alors, après les Allemands, le Cameroun est passé sous ce qu'on appelle la tutelle de la Société des Nations, qui est aujourd'hui appelée Organisation des Nations Unies, ONU. Du fait que l'Allemagne, ayant perdu la Deuxième Guerre mondiale, devait payer un tribut aux alliés, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, et même l'Amérique, mais beaucoup plus la France et l'Angleterre. Et à ce moment, on a procédé à la partition du Cameroun en un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone. Donc le Cameroun, voilà son histoire en termes territoriaux. Et là maintenant, le Cameroun n'était pas uni, en fait. Mais certains leaders tels que John Nkuffo-Cha de la partie anglophone avaient estimé rejoindre le Cameroun oriental qui était francophone en abandonnant l'administration nigériane qui les oppressait. Mais ils avaient beaucoup un sens de nationalisme. Pendant la même période, il y a eu un parti nationaliste qui s'appelait l'Union de population du Cameroun, qui exigeait une indépendance totale, pas une indépendance administrative, mais une indépendance totale, tant sur le plan économique que sur le plan de la gestion de l'espace et des hommes. Ce que le colonisateur français n'a pas apprécié, et on a déclaré en 1955 l'UPC comme un parti rebelle, l'occupant français s'est mis donc à tuer toute opposition qui s'est présentée devant elle. Donc la France a créé une guerre au Cameroun, ce qu'on appelle la guerre de l'indépendance. Les archives ne sont pas encore déclassifiées, mais ça existe. Rien que la zone ouest bamiléké a perdu, on estime à plus de 300 000 morts qui étaient tués, écrasés, bombardé
Par des missiles.
par des avions. Donc c'est une période que j'ai connue, je n'avais que 4 ans, mais les images restent très fortes. Et c'est pour ça que je pense que même étant enfant, il y a certaines images qui ne disparaissent pas de l'esprit. Donc les images étaient très fortes. À l'époque, j'étais chez mon grand-père maternel, étant tout petit, il y avait ma maman, j'avais 4 ans. Mais je sais que notre concession a été incendiée 3 fois. Et je vois encore l'image des militaires tapant cognant sur mon grand-père avec la crosse des fusils. Donc il est mort complètement. Il est mort. Sa démarche avait changé parce qu'il a été complètement déhanché par les crosses de fusil. Nous dormions dans les champs. Étant tout petit, nous savions que quand il y a un avion qui vole, on doit s'aplatir au sol pour ne pas être vu, ne pas être bombardé. On a traversé des cadavres. Donc nous avons connu la guerre de l'indépendance. Après l'indépendance, un gouvernement avait été installé par les Français. Sous la bannière de Ahmadou Ahidjo, qui semblait être celui qui était plus docile par rapport à d'autres nationalistes. La France l'a placé au devant pour qu'il soit le premier président du Cameroun. Mais il avait encore une tâche à faire, c'est-à-dire éradiquer toute l'opposition, les têtes, tous les leaders de l'UPC.
Et c'est ce qu'il a fait.
Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que je me rappelle parce que il y avait des jours où on était à l'école et on demandait à tout le monde de sortir pour qu'on aille sur la place publique assister à la fusillade des nationalistes. Et une fois quand on les avait fusillés, on leur coupait la tête, on mettait sur les piquets, on plaçait le long des rues pour intimider. Toute forme de résistance, pour dire, voilà le sort qui vous est réservé si jamais vous ouvrez la bouche. Donc c'était des moments d'horreur, c'était des périodes d'horreur. On n'avait pas le courage de dire, on n'avait pas la liberté d'expression. C'est vraiment de la dictature et de la tyrannie dans la ligne. Donc le dernier nationaliste a été tué, je crois, le 15 janvier 1970, il s'appelait Wandie Agnès. Il a été arrêté, tué, c'est le dernier. Et c'est à partir de cette période que le nationalisme a carrément foutu la paix. Mais pour dire vrai, c'est que le Cameroun était un pays terriblement prospère malgré toutes ces atrocités. Il était troisième producteur de cacao, je crois qu'il est encore aujourd'hui, producteur du café, les deux types de café, arabica et robusta, avait une économie très prospère, était classé parmi les pays à revenus intermédiaires, revenus intermédiaires jusqu'en 1980. Et tout a basculé à ce moment. Mais je dois aussi dire que la politique de Ahmadou Ahidjo avait n'était pas négative. Plutôt, il est redevenu nationaliste après avoir exploité les documents des opprimés, de ceux qui lui-même il avait tranché le cou. Il a compris que c'est cette politique qui devait amener le Cameroun vraiment à l'émergence et un pays vraiment prospère. Mais ça lui a coûté sa vie aussi parce qu'en fait, lorsque l'occupant français a vu qu'il avait changé de politique, il n'était plus l'élève obéissant, il s'était beaucoup plus penché vers l'amélioration des conditions de vie de son peuple, a donc mis en place un stratagème pour l'amener à démissionner. Et le stratagème était facilement trouvé puisqu'on lui faisait comprendre qu'il était malade, il avait une maladie qui ne devait pas lui permettre de vivre plus d'un an. Il a été obligé, parmi ses collaborateurs, de choisir un pour mettre à la place. Et il était sage, mais il s'est aussi trompé parce qu'en fait, il a pris celui qui était très doux. Il a laissé ceux qui menaient beaucoup d'actions parce que ceux qui menaient d'actions faisaient des erreurs. Mais le gars doux, il ne menait aucune action, donc il ne pouvait jamais commettre une erreur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le Cameroun souffre beaucoup. Et depuis 40 ans, d'une vie au rabais, tous les indicateurs économiques sont en rouge, la mauvaise gestion est légion, et surtout la corruption a augmenté. Donc, voilà à peu près sur le plan historique ce que je peux dire.
Et donc ce changement, on est passé de prospère à, je sais pas,
Un pays très pauvre et
à
très endetté.
partir de quelle année? 1980 environ.
Le Cameroun a été déclaré pays très pauvre et endetté en 1990.
Ok. Et depuis lors, comment se porte l'économie du Cameroun?
L'économie du Cameroun, jadis, qui naguère était à deux chiffres et aujourd'hui à un chiffre. Donc l'économie du Cameroun n'est pas prospère, les infrastructures sont dégradées, l'approvisionnement en eau, il y a 10 ans, c'était pas mal. Aujourd'hui, on n'a même plus d'eau. Les coupures d'électricité sont récurrentes. Donc en fait, on n'a pas eu une perspective, on n'a pas eu de vision politique réelle pour prévoir l'augmentation de la démographie, pour prévoir les exigences, pour la mise à jour, parce que tous les pays du monde évoluent, et le Cameroun a plutôt stagné, pour ne pas dire régressé.
Et avec l'augmentation des prix actuels, comment la population fera pour s'en sortir? Parce que
Il est impossible de s'en sortir parce qu'en fait, l'augmentation le plus, je veux dire, le plus important est l'augmentation du prix du carburant. C'est le carburant qui permet le mouvement des personnes et des biens. En fait, toute augmentation du carburant a une incidence directe sur tous les secteurs de l'économie d'un pays. Donc, l'inflation est inévitable. Les jours qui se présentent devant nous sont pleins de nuages. Donc, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Toujours est-il que le Cameroun est entré dans une phase de crise et de crise profonde qui prend encore davantage plus d'accent avec la crise anglophone parce qu'il y a aussi une guerre qui sévit dans les zones anglophones qui réclament leur identité sans compter la menace de ce qu'on appelle le Boko Haram dans la partie septentrionale du pays. Donc les jours à venir ne sont pas aussi glorieux qu'on peut le penser. Ça peut arriver, mais ce sera difficile.
Peut-être on va espérer un petit changement, puisque normalement les élections c'est l'année prochaine. On ne sait jamais, peut-être il y aura un nouveau dirigeant, mais je n'y crois pas trop, pour être honnête.
Les élections, c'est en fait une possibilité pour les démocraties de changer la manière de faire, de changer les modes de gestion. Mais ceci ne peut être rendu possible que si les élections sont transparentes. En fait, de manière sournoise, plein de Camerounais expriment leur ras-le-bol. Émotionnellement, personne ne se sent bien. Mais ce sera la bouée de sauvetage, c'est carrément le changement de ce régime parce que sera au là l'avantage que la nouvelle personne qui viendra partira des échecs de celui qui est en train de partir, de laisser le siège pour améliorer quelque chose avant lui-même de retomber dans le même virus de la gestion du pays. Et le pays souffre aussi d'un mal essentiel qu'on appelle la corruption, parce que la corruption est un poison lent qui tue l'économie entièrement. Et c'est cette corruption qui entretient l'ordre dominant au Cameroun. Et les détournements, bien sûr, d'argent, puisque vous pouvez faire tout ce que vous faites. Lorsqu'on vole ou on détourne, ça garantit la place à celui qui dirige. Parce que du moment où il vous protège, vous êtes prêt à tout faire pour le maintenir. Et c'est pour ça que les élections transparentes n'existeront jamais dans ces conditions. Voilà.
Merci beaucoup, papa, pour ces paroles. Alors, on va bientôt arriver au terme de cette interview. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à la jeunesse actuelle ou bien un petit mot de fin?
Le petit mot de fin, c'est que malgré le bilan assez noir que je viens d'exprimer, c'est un élément essentiel aussi en fait, parce que si on n'accepte pas qu'il y a des problèmes, on ne trouvera pas de solution. Donc l'essentiel, c'est de se placer en mode solution. Et la première solution, c'est de laisser le sentiment de victimisation et de prendre la responsabilité. Il y a un sage qui a dit ceci en anglais. Do not let what you cannot control interfere with what you can do. En fait, il faut pas laisser les facteurs extérieurs influencer le facteur intérieur. Parce qu'en fait, à l'intérieur de chaque être humain, il y a ce qu'on appelle le potentiel. Et tout problème, tout challenge a une solution. Et c'est quand nous mettons notre potentiel à l'épreuve, quand nous l'explorons très bien, que nous pouvons trouver les solutions. La jeunesse doit compter sur elle-même. Compter sur elle-même signifie tout simplement de pouvoir faire une évaluation de son propre potentiel et de le mettre en branle pour réaliser quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le rêve. Malgré les soubresauts de la vie, chacun doit avoir un rêve. et fixer des objectifs qui t'amènent vers le rêve, mener des actions qui vont concourir à l'accomplissement des objectifs. Et à ce moment, le rêve sera atteint. Des situations économiques et des situations de gestion et même des situations de gouvernance sont des situations, surtout lorsqu'elles sont négatives, elles vont s'auto-détruire toutes seules. Mais avant que ça n'arrive, nous devons prendre notre responsabilité pour pouvoir accomplir ce qui est à la hauteur de ce que nous pouvons faire. C'est le seul conseil que je veux dire. Donner ce soir, ne pas laisser que ces influences extérieures agissent sur nous, mais comprendre que nous-mêmes, on peut réinventer notre futur.
Merci beaucoup, Pa, pour ces paroles pleines de sagesse. C'était une discussion très intéressante et très enrichissante sur l'histoire du Cameroun. J'en ai appris beaucoup et je pense que tous ceux qui vont écouter cela vont apprendre beaucoup et on aura une nouvelle vision des choses. Merci beaucoup.
Merci, et surtout, bonne chance,
Merci, Pa.
plein de succès dans tout ce que tu entreprends. J'ai été très honoré pour ces instants de partage.
Bon, n'oubliez pas de partager. Voilà, si vous voulez m'offrir un café, vous pouvez m'offrir un café. On se voit dans le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram de Black is Spicy pour me faire part de vos différents commentaires et vos différents avis. Et surtout me dire si vous avez appris de nouvelles choses. Au revoir!